toi, mon Dieu, monte un chant d'amour et de joie immense, je te bénirai en tout temps. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. C'est toi, mon Dieu, qui créa la terre et aussi le ciel. Tu les as remplis de merveilles. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits, tu m'as donné, je te dis merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Et toi, mon Dieu, tu n'as pour nous que des projets de paix, et tu ne veux que le meilleur. Pour tes éternelles bontés et pour tes nombreux bienfaits et pour tous les jours que tu m'as donnés, je te dis merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci. Toujours et même dans l'éternité, je te dirai merci.
Tout le monde va bien? Oui. On va prier pour Sandrine, je crois. Nous lisons ce matin encore dans le sermon sur la montagne, au chapitre 6 de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 34, s'il vous plaît. Je vous avoue, je ne lis pas à mesure, comme je vous ai déjà dit, je ne sais même pas où il s'arrête ce sermon sur la montagne. Parce que moi et les chiffres, c'est terrible. Je connais quelques, je crois quand même... Des centaines de versets, des références, mais la Bible est tellement pleine de versets, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'arrive pas à tout savoir. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Quand Jésus parle, il ne dit pas n'importe quoi. Et quand il dit ce qu'il dit, il ne le dit pas n'importe comment. Il faut bien regarder les mots qu'il emploie, où il les met, le contexte, ce qu'il vient de dire avant. C'est très important. Les intentions qu'il a. Là, il est en train de nous parler, ça fait déjà quelques temps. Enfin, lui, c'était un sermon. Puis là, moi, je développe. Dans son sermon, là, il nous parle en ce moment d'inquiétude. Il parle de nos anxiétés. Et là... En particulier, il nous parle de la relation entre nos aujourd'hui et nos demain. Le temps. Quand on lit attentivement ce que Jésus est en train de nous dire, ça nous donne à comprendre que l'anxiété, en fait, ça va à l'encontre du bon sens. Ça va à l'encontre de la foi en Dieu. Ce qu'il nous dit là démontre que la foi, c'est ça le bon sens. Il nous dit même avec un peu d'humour, là. Il nous montre que c'est ridicule. Écoutez-le bien. Les objets de nos anxiétés sont en rapport avec demain. Mais nos anxiétés, on en profite déjà bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le demain d'avant-hier, vous êtes d'accord. On ne vit jamais que le aujourd'hui. Pourquoi se bousiller? Pourquoi se rendre malade? Et pourquoi être attristé aujourd'hui pour des choses qui n'existeront peut-être jamais? En fait, l'anxiété, elle survient à propos de choses, d'événements qui pourraient se produire. Mais c'est très possible aussi que les événements qu'on anticipe négativement ne se réalisent pas, jamais, ne viennent jamais à la réalité. Réaliser, ça veut dire venir à la réalité. Alors souvent, on entend dire, et moi, ça c'est quelque chose qui m'énerve quand j'ai un souci, puis que quelqu'un vient dire, mais t'inquiète pas. mais t'inquiète pas, bof, on verra bien. Hein, ça vous arrive jamais que quelqu'un vous dise ça? Bon, oui, aucun problème, hein. Puis vous, vous avez un gros truc qui vous arrive, puis il est là avec sa bouche au cul de poule, puis vous dites, mais t'inquiète pas, ça va aller, laisse venir, on verra. Mais n'empêche que c'est plein de bon sens, ça. C'est plus intelligent, en tout cas, que de se ronger de l'intérieur. Il y a du bon sens là-dedans. Ne t'inquiète pas, on verra bien. En fait, c'est ce que Jésus nous dit là. Chaque jour, prends soin de lui-même. Voilà. On a peur d'échouer. On a peur de ne pas réussir un examen. On a peur de ne pas trouver d'emploi. On a peur de ne pas trouver chaussures à son pied pour se marier. On a peur de ne pas avoir des enfants. On a peur qu'il tourne mal. On a peur qu'on a peur, on a peur. La peur est mauvaise conseillère. On le sait pourtant, non? On le sait. Il y a des tas de choses que la peur nous fait redouter et puis qui se matérialiseront peut-être jamais. Alors c'est quoi ça? Eh bien, le souci, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. C'est une perte d'énergie, c'est un gaspillage de temps. Vous voyez, voilà, tout à l'heure, je vous parlais, le rapport entre aujourd'hui et demain, c'est le temps. Eh bien, c'est une perte de temps déjà. C'est une mauvaise utilisation du temps. Jésus, il veut que ses disciples apprennent à vivre chaque jour, dans le moment présent de chaque jour. Bon, alors ça ne veut pas dire, comme je vous l'ai déjà dit souvent, qu'on ne peut pas faire des projets pour l'avenir. Le truc, c'est de ne pas se faire du souci, c'est de ne pas laisser entrer le souci, l'inquiétude dans les projets. À chaque jour, Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine, ou chaque jour a soin de lui-même. Ça nous invite à envisager l'avenir sans que l'avenir soit une cause d'inquiétude, de souci. Moi qui vous parle, je sais très bien de quoi je parle. On est tous faits de la même manière, ça nous tombe dessus. Ah, puis s'il arrive ça, comment on va faire? Ah, puis s'il y a ça, ah, puis si, ah, puis si. Bon, si ce que vous redoutez ne se réalise pas, vous vous faites du mal pour rien. Et si ce que vous redoutez arrive, eh bien, vous vous serez fait mal deux fois plus. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, c'est un non-sens. De ne pas avoir la foi, comme Jésus dit, c'est un non-sens. Alors, laissons les préoccupations négatives. Bien sûr qu'il faut se préoccuper. Il faut s'occuper avant, afin que les choses bonnes arrivent, les choses positives, ce qu'on construit. Mais débarrassons-nous de cette inquiétude, parce que l'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu. C'est un mauvais esprit qui cherche à saper notre joie, à saper notre élan. Se laisser préoccuper par des trucs au point où ces trucs accaparent toute notre attention, toute notre énergie, et que cela nous accable d'anxiété, ben, mes frères et sœurs, c'est une attitude qui est incompatible avec la foi. Et on est des gens de foi. On est des gens de foi. Alors, il faut se remettre sur les rails. Quand on commence un petit peu à dérailler vers l'inquiétude, il faut se remettre sur les rails. Quand je lis ça, je crois même entendre Jésus dire qu'une telle attitude, elle est indigne d'une personne intelligente. Alors, dans son sermon sur la montagne, Jésus nous appelle à quoi? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? J'ai relu un peu en arrière et j'ai vu. Il nous invite à une justice supérieur. Il nous invite à manifester un amour supérieur, vous vous rappelez tout ça? Il nous invite à avoir une piété supérieure, meilleure, plus profonde, et maintenant, à avoir des projets de vie plus ambitieux, c'est-à-dire qui ne sont pas sapés, abîmés par l'inquiétude. Ce qu'un disciple recherche de toutes ses forces, ce qui le préoccupe, le disciple de Jésus, ce qui est digne de louange, c'est le bien suprême. C'est les véritables valeurs spirituelles. C'est ça qui occupe le cœur, les pensées du disciple de Jésus-Christ. Et ça ce n'est pas ce qui occupe et ce qui préoccupe les pensées des païens, c'est-à-dire des incultes. Un culte, je répète encore une fois, un culte, c'est un vieux mot, païen, c'est un vieux mot qui veut dire inculte, qui veut dire paysan. Les vieux, autrefois, les paysans, ils n'avaient pas droit à la culture, ils pouvaient juste cultiver leur champ, mais ils n'avaient pas droit à la culture, c'est-à-dire aux choses intellectuelles, à l'instruction, à ces choses. Et autrefois, donc, les paysans, n'ayant pas accès à la culture, étaient des incultes. Et quand on parle de païen, ça veut dire on parle d'inculte, de gens qui ne connaissent pas. Ils n'ont pas de savoir. Un disciple de Jésus, il connaît, il a un savoir. Il connaît Dieu, il connaît la doctrine de Dieu, il connaît les enseignements de Jésus. Il a un savoir, il est instruit. Et son savoir lui permet d'avoir un comportement de qualité supérieure à celui des incultes. Alors, par les Écritures, on a accès à la véritable sagesse, à la sagesse la plus élevée qui soit. J'ai beaucoup voyagé et un jour, je me suis trouvé à Auroville. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Auroville. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est devenu, Auroville. Moi, j'allais voir ça sur Internet. Alors, c'est une femme française qui avait monté un truc là-bas. Et de grande sagesse. Et il y avait plein de Français qui allaient. Ils y vont peut-être toujours, je ne sais pas. C'est en Inde. Et des Hollandais, des Anglais, des Américains, toutes sortes. Elle leur balançait un message de sagesse extraordinaire. Mais tout, elle pompait tout, mais absolument tout, dans la Bible. Ils avaient tout chez eux, et ils allaient chercher là-bas en Inde, dans l'inconfort, et voilà, bon voilà. Jésus place les choses à leur véritable place. Par exemple, rappelez-vous, on a vu là, dans le sermon sur la montagne, le Notre Père. Eh bien, dans le Notre Père, il y a une hiérarchie de valeurs. Vous vous rappelez, je vous avais enseigné ça. Et la hiérarchie de valeurs que nous avons, ce n'est pas la même hiérarchie de valeurs que les païens, les incultes ont. Le disciple recherchera, le disciple voudra, premièrement, que le nom de l'Éternel soit glorifié, hein, que ton nom soit sanctifié. Deuxièmement, que le règne de Dieu vienne. Troisièmement, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis en quatrième seulement, le pain quotidien. C'est pas que c'est pas utile le pain quotidien, mais ça vient en quatrième position, vous voyez. Premièrement, ce sont des choses saintes, sacrées, élevées, suprêmes. Ce qui préoccupe, ce qui occupe, ce que le disciple recherche, ce sont d'abord ces choses-là. Alors, je vous enseigne ça, pas juste pour vous expliquer, pour vous faire de la paraphrase de ce que Jésus dit, mais je le dis parce que je sais qu'en ce moment, plus que jamais, on vit dans une période où ça ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Là, j'ai eu des nouvelles de Nicolas, il me dit que ça s'est arrangé, on ne tire plus des coups de feu dans la ville, ça va mieux. Mais le maire est encore à l'hôpital. Le maire de Ouagadougou est encore à l'hôpital. Les coups et blessures qu'il a reçus là-bas. Ils ont mis le feu à plein de trucs. Bon, ça va un peu mieux. Mais il y a des tas de gens qui se retirent, qui s'en vont, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent plus travailler là-bas, parce qu'ils ont peur. Paraît-il que maintenant, le Burkina, c'est devenu le troisième pays au monde dangereux. Vous vous rendez compte qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça il y a encore un an et demi? Sinon, on savait un petit peu. Parce que bon, on a des relations. Alors on voyait un peu comme quelle tournure ça prenait, mais voilà. Et on a besoin de se mettre ou de se remettre en position de disciple. Hein, on est rentré en communauté pour être des disciples. Hein. Quiconque ne renonce pas. Alors on s'est mis comme ça. Mais maintenant qu'on est comme ça, ben, de temps en temps, il faut se remettre en position parce que c'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes, puis pouf, pouf, voilà, on l'a fait il y a 20 ans, puis maintenant, ben, c'est... Non, il faut se remettre, il faut faire les réglages, hein, comme quand on fait une photo ou un film, il faut faire des réglages de temps en temps. Maintenant, je sais, ils ont des appareils automatiques formidables, mais si on veut vraiment une belle image de notre vie, il faut faire des réglages personnels. C'est toujours beaucoup mieux que de compter sur le truc automatique, non? Bien sûr. Alors, que son règne vienne, ok. Pourquoi est-ce qu'on prie pour que son règne vienne, nous qui savons que Dieu tient toutes choses dans ses mains? Pourquoi est-ce qu'on prie pour que son règne vienne? Son règne, il vient, il est, Dieu, il règne. Il règne sur la nature, il règne sur l'histoire. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette et sans que Dieu le veuille. On le sait, on en est certain. Mais quand nous prions que ton règne vienne, nous prions pour que ce règne qu'il a instauré au sein de son peuple vienne. On prie pour que ce règne qu'il inaugure dans l'expérience de ceux qui sont nés de nouveau vienne. C'est pour que ce règne-là vienne. Le règne du salut en Jésus-Christ. Avec lui comme maître, ensuite ses ministres, ensuite l'organisation de l'Église dirigée par le Saint-Esprit. On prie pour que son règne vienne dans la vie des gens et que ça commence par la repentance, ensuite une foi absolue, ensuite une soumission selon la volonté écrite de Dieu. Ensuite, le royaume... C'est quoi en fait le royaume de Dieu? C'est Jésus-Christ roi. Jésus-Christ roi qui exige tout de son peuple. Et c'est ça quand on prie, que ton règne vienne. C'est ça qu'on prie. C'est ça qu'on veut. Il règne sur la nature. Et la Bible nous dit qu'il est le maître des éléments, ce qui se produit, ces tsunamis même, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est sous son contrôle. Je me dis, oh, c'est affreux, oui, c'est affreux. Je sais, c'est comme ça. Dieu ne nous a jamais caché que ça sera comme ça et ça n'ira pas de mieux en mieux. Jésus-Christ, il est le roi qui bénit son peuple sans mesure. Alors, quand on comprend ce que c'est que son royaume, ben c'est ça qu'on cherche d'abord. D'abord, avant tout, premièrement. On le désire comme une chose primordiale. On y travaille en premier. C'est à ça qu'on se consacre d'abord. Et ce qui est primordial pour un disciple de Jésus-Christ, c'est la souveraineté de Jésus-Christ dans sa propre vie d'abord, ensuite dans son Église, et puis ensuite dans le monde. La souveraineté de Jésus-Christ. Mais comment pouvez-vous prier le Notre Père? Comment pouvez-vous prier pour que sa souveraineté vienne dans le monde si déjà vous n'avez pas le désir de la souveraineté de Jésus dans votre propre vie et que ce n'est pas lui le maître, ce n'est pas lui qui passe en premier dans toute chose? Et que vous avez des tas d'autres occupations, préoccupations et même soucis. Jésus veut être, il est le roi. Et il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Des adorateurs en esprit, en vérité, ce n'est pas des gens qui s'assient en rang d'oignon, puis qui disent Alléluia, et qui parlent en langue, et qui frissonnent, et qui ont des impressions. Non, quelqu'un qui adore Dieu en esprit, en vérité, c'est quelqu'un qui accepte la seigneurie de Jésus dans toute sa vie, dans son foyer, dans son couple, dans sa famille, dans sa moralité personnelle, dans la moralité de ses affaires, dans sa vie professionnelle, dans son compte en banque, dans ses déclarations d'impôts, dans son style de vie, dans ses devoirs de citoyen, la souveraineté de Jésus. C'est ça qu'un adorateur en esprit en vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste le dimanche entre 10h et midi s'éclater dans le Seigneur. C'est un mensonge, ça. Se soumettre volontairement, se soumettre joyeusement à Jésus-Christ. Je remets mon esprit entre tes mains. Je ne peux pas remettre mon esprit entre les mains de Dieu, qu'il soit souverain, si je dirige mon foyer comme je le veux, sans sa souveraineté, que je fais mes affaires en disant, ben, les affaires, c'est les affaires. Alors donc, je peux mentir, je peux voler, je peux... Vous voyez ? Se soumettre volontairement et joyeusement à Jésus-Christ, cela... Ça a des prolongements immédiats dans l'environnement immédiat de chaque personne, de chaque disciple. Un disciple de Jésus-Christ, il est responsable, c'est-à-dire il se sent responsable, il a des responsabilités vis-à-vis de ses parents, premièrement, ça veut dire si c'est un enfant, c'est ses parents, de toute façon, même si on est parent, on a encore des parents, pour la plupart, et puis si on est parents aussi pour nos enfants, on a des responsabilités. Premièrement, c'est la famille, ensuite la communauté, ensuite les collègues, les voisins, les amis, tout ça. Mais on est responsable, un disciple de Jésus est responsable. Il n'avance pas d'une façon passive en suivant le troupeau, et puis on verra bien. Jésus a dit de ne pas s'inquiéter, donc je ne m'inquiète pas. Non, on se prend des responsabilités, sans se faire du souci, mais des responsabilités. Alors, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, si on cherche, ça veut bien dire, ça veut pas dire qu'on se fait du souci à ce niveau-là, mais ça veut dire qu'on met tout, on s'implique là-dedans. Et ça, d'abord, premièrement, avant de s'impliquer pour toute autre chose. C'est se préoccuper d'abord de ce qu'il aime le plus. Et ce que Dieu aime le plus, la Bible nous dit qu'il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu efficace, il est un Dieu de bonheur, il est un Dieu de joie. Alors, ce qu'il aime le plus, ben, c'est justement l'ordre, l'efficacité, le bonheur, premièrement dans sa communauté, qui est son Église, et puis ensuite dans l'évangélisation. Ça, c'est la deuxième chose que Jésus aime. Il y en a qui disent, c'est Frère Osborne, il dit, le numéro un, c'est l'évangélisation. Non, parce que l'évangélisation, elle a un but, c'est l'Église. Donc, c'est l'Église qui est numéro un, et le numéro un dans l'Église, c'est l'évangélisation, d'accord. Mais ce que Dieu est en train de construire, ce n'est pas l'évangélisation, c'est l'Église. Le salut des autres, qu'ils soient vivants ou morts. Qu'est-ce que nous désirons? Pourquoi est-ce que nous désirons que son royaume s'étende? Est-ce que c'est en vertu d'un impérialisme? Il y en a qui pensent ça. Hein? Là, je vois des articles au sujet d'une certaine dame en Afrique. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne vais pas recommencer, mais voilà, en disant voilà, elle a une influence évangélique sur son mari et ça amène le sang dans la nation, etc. Il y en a, c'est oui, et puis il y en a, c'est pas vrai. Il y en a, c'est vrai, puis il y en a, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire de l'évangélisation pour avoir des grandes églises, pour pouvoir régner sur ces gens, pouvoir régner sur un peuple. Et c'est mauvais, ça. Pourquoi est-ce que nous désirons que son royaume s'étende? Pour notre propre intérêt? Dans l'intérêt de notre église locale, de notre pays? Non. C'est pour Dieu que nous désirons que son royaume s'étende. Et c'est pour ça que nous nous y consacrons. C'est pour ça qu'on s'y consacre. C'est pour l'intérêt de Dieu. Est-ce qu'on évangélise pour obéir à Jésus? C'est très bien en soi de dire, ben je vais le faire parce qu'il faut obéir. Comme Alain tout à l'heure, il nous a dit, il courait, il court. Alors il fait un tour de pâté de maison, puis après son corps lui dit, ouais, bon, ben, t'as fait ce que tu devais, arrête. Puis il y a une autre voix qui lui dit, non, t'avais décidé d'en faire 4-5, faut le faire. Alors, je vais obéir. Mais est-ce qu'on obéit à Jésus en disant, bon, il faut absolument, c'est pas mal en soi. C'est bien en soi, ça nous oblige. L'obéissance est une bonne chose, mais on n'évangélise pas, on ne répond pas, on ne veut pas que le royaume de Dieu s'établisse par obéissance seulement. Est-ce que nous évangélisons pour rendre les gens heureux? C'est bien en soi d'évangéliser pour que les gens soient heureux, parce que c'est vrai que quand ils connaissent l'évangile, ils peuvent connaître la joie de leur salut, ils peuvent connaître le bonheur dans leurs affaires, dans leur famille, c'est formidable. C'est très bien en soi d'évangéliser pour que les gens soient heureux, mais ce n'est pas le vrai but. Ce qui est en jeu dans l'évangélisation, comme dans la pratique de 1 Corinthiens 15-29, eh bien, c'est la gloire de Dieu, c'est tout, c'est la gloire de Dieu. C'est pas autre chose. C'est la gloire de Dieu devant les règnes infernaux, afin qu'ils sachent, toutes ces puissances mauvaises, que nous sommes du côté de Dieu et que nous sommes pas simplement, que c'est pas simplement une vue de l'esprit, mais que c'est quelque chose de très pratique. Dieu a inauguré le règne du salut par Jésus-Christ à la croix. C'est une chose. Et il veut maintenant établir son règne du salut dans la vie de ses créatures. Et un vrai disciple de Jésus-Christ, il devrait brûler du désir de voir le nom de Jésus-Christ honoré comme il doit être honoré. Et pour cela, c'est le nom de Jésus qu'il faut mettre en avant. C'est son enseignement qu'il faut mettre en avant. C'est les actes qu'il nous dit de poser, que nous devons poser en son nom. Et pour que cela soit, le disciple de Jésus devrait se préoccuper d'abord de ici et maintenant, du royaume de Dieu sur la terre. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi le royaume de Dieu à venir, mais pour le moment, il y a un royaume de Dieu sur la terre. Sans perdre de vue le royaume de Dieu sous la terre. Sans perdre de vue l'ordonnance du baptême pour les morts qui contribue à faire sortir nos ancêtres qui sont captifs là, dans ce séjour des morts. Jésus est venu et il a fait sortir des captifs du séjour des morts. Vous trouvez ça dans Éphésiens 4, 8, 10. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est remonté en emmenant avec lui des captifs parce qu'il a prêché l'évangile. Des gens l'ont accepté, il y en a qui l'ont refusé, mais il y en a qui l'ont accepté. Et il les a emmenés avec lui, eux qui étaient captifs. L'évangile leur a été prêché, et maintenant l'évangile est encore prêché, parce que tout ce que Jésus a fait, nous le faisons aussi. Alors ce n'est pas nous qui prêchons, mais aussitôt qu'un chrétien décède, il va dans cet endroit et il prêche l'évangile. Et les gens qui sont là l'acceptent ou le rejettent personnellement. Selon 1 Pierre 4, 6. Personnellement, il l'accepte ou il le rejette. L'évangile, c'est comme ça, on l'accepte ou on le rejette. Et nous, ici, sur la surface de la terre, nous accomplissons à leur place l'ordonnance du baptême, qui est la condition indispensable pour le salut, selon Marc 16, je crois. Il faut croire et être baptisé. Ils ne peuvent pas être baptisés, ils n'ont pas de corps. Mais nous le faisons à leur place. Et nous avons cette sorte de foi de ceux dont Paul parle dans 1 Corinthiens 15, 29. Nous n'oublions pas les vivants, mais nous n'oublions pas les morts non plus. On ne prie pas pour les morts, c'est démoniaque. C'est interdit. Mais on fait ce qui est à faire. Mes frères et sœurs, la manifestation du règne de Dieu, en ce moment, c'est que partielle. Mais il faut prendre cette part dans ce partiel. Jésus annonce un royaume dont la gloire est à venir. Là, on ne peut pas tellement agir là-dessus. Sinon, en prenant notre part dans le partiel, sinon en prenant notre place dans le temps. Est-ce que vous rendez compte de ce que je dis là? Prendre sa place dans le temps. La place, en général, c'est pour l'espace, non? Mais on prend sa place dans le temps aussi et l'espace. En ce jour-là, quand Jésus reviendra pour établir son royaume éternel, les ennemis du roi, la Bible nous dit qu'ils deviendront son marche-pied. À partir de ce jour-là, son règne ne sera plus du tout contesté. Il n'y aura plus de « oui, mais moi je pense que… » Non. Alors, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Et le reste suivra. Jésus le dit. Dieu pourvoira au-delà de vos espérances. À chaque jour suffit sa peine. Vous inquiétez de rien. C'est plus qu'une promesse. C'est une promesse divine. Mais c'est plus qu'une promesse divine. C'est une loi. C'est une loi aussi inviolable que la loi de la gravité. Alors, j'ai appris des choses en lisant. On m'a dit qu'il fallait brûler mes livres. Mais moi, je ne veux pas brûler mes livres. J'en achète des nouveaux. Au contraire. J'ai lu des choses extraordinaires au sujet, par exemple, de la gravité. Je vous parle de la gravité. Je vous dis que la loi de Dieu, elle est aussi, la loi de la gravité, c'est aussi une loi de Dieu. Il y a aussi des lois morales, il y a des lois spirituelles. Et tout ça, c'est immuable, c'est inviolable, la loi de la gravité. J'ai appris que la loi de la gravité, telle que Newton l'a découverte, elle est imparfaite. Est-ce que vous savez ça? Rappelez Newton, il a vu une pomme tomber. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Et puis, il a dit, ah, formidable. Et il a compris le truc de la loi de la gravité. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Albert Einstein. Vous avez entendu parler de ce vieux monsieur qui tire la langue sur les posters dans la chambre des ados. Albert Einstein. Et il a vu que la loi de la gravité ne fonctionne pas parfaitement à moins de fonctionner dans l'espace et le temps. Ça, Newton n'avait pas vu. Ce qui fait que son explication de la loi de la gravité, elle n'est pas réellement exacte quand on l'observe dans les faits, dans l'univers infiniment grand. Alors que quand on accepte l'idée de la théorie d'Einstein, à partir de là, on la voit se manifester réellement dans la matière, dans l'infiniment grand. L'espace-temps. La loi de la gravité ne fonctionne parfaitement que dans l'espace-temps. Il n'y a pas l'espace et puis le temps. Il y a l'espace-temps. Il explique que l'espace et le temps, c'est comme un tissu, c'est tramé ensemble. Quand vous bougez, vous ne faites pas bouger que votre corps, vous faites bouger le temps. Le temps bouge plus ou moins vite quand vous bougez. Plus ou moins vite. C'est observable dans l'univers infiniment grand. Quand vous bougez juste, quand vous agissez juste, sans inquiétude, au sujet de demain, vous faites bouger le temps en votre faveur. Dans l'harmonie. Alors, on peut bouger, c'est-à-dire agir avec ou sans foi. On peut aussi agir, bouger dans ou hors harmonie. Avec ou sans inquiétude. Parce que bouger hors harmonie, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Maintenant, c'est vous qui voyez. Mais pour ceux qui bougent, c'est-à-dire qui agissent avec foi, en harmonie avec Dieu, le temps et tout se met en place en leur faveur. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ce qu'Einstein a découvert dans les faits scientifiques. Dieu ne tient pas l'espace dans lequel vous agissez sans tenir compte du temps qui est tissé avec. Tout ça, ça va ensemble. On dit par exemple, ah, celui-là, il bosse beaucoup, mais en fait, il brasse l'air. Vous avez déjà entendu ça? Mais on ne fait pas que de brasser de l'air, on brasse du temps. Étudiez, même si vous ne faites que d'effleurer, moi je ne fais que d'effleurer, hein. Même si vous ne faites que d'effleurer, lisez, étudiez la loi de la gravité selon Einstein, vous allez être époustouflé. Ça va avec tout ce que la Bible dit, c'est magnifique. Jésus a raison, c'est ridicule de se faire du souci. C'est idiot, c'est un manque de bon sens. C'est complètement incompatible avec la foi qui doit animer un disciple de Jésus. C'est pourquoi moi j'ai décidé, je ne veux plus me faire de souci. Maintenant, si vous me voyez faire du souci, venez vers moi, dites Michel, arrête, on verra bien, ça va s'arranger, ça va m'énerver encore davantage, mais merci d'oser venir me le dire. Amen. Parce que c'est vrai, ça nous tombe dessus. Mais non, il faut arrêter de se faire du souci. Suivez le Seigneur. Amen. Jésus, je te demande de bénir mes frères et sœurs, de ceux qui sont sur Internet qui écoutent, de ceux qui regardent le film en ce moment, ainsi que ceux qui sont là dans la chapelle. Bénis chacun. Bénis, donne à chacun de bien comprendre cela et d'entrer dans ce système de la foi, dans ce domaine, dans cette dimension de la foi. Père, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ, afin que la vie de chacun et de chacune puisse être une beauté pour ta gloire, que ton nom soit glorifié, sanctifié par chacun d'entre nous. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.
Seigneur Jésus, je viens dans ta présence pour te louer, t'honorer et t'adorer.